إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue ces paroles qui sont prises de ce livre du grand savant Ibn Qayyim rahmatullah alayh, dont le livre s'intitule Al-Fawaid ou Fawaid al-Fawaid. La dernière fois on a parlé d'une grande ni'ma. Et cette ni'ma-là, c'était la connaissance, d'avoir la connaissance, el-ilm. D'avoir la connaissance de la voie des croyants et d'avoir la connaissance de la voie des égarés. La première, pour pouvoir la suivre et s'y accrocher fermement, et la deuxième pour pouvoir s'en écarter le plus possible et ne jamais l'emprunter. Ça c'est une ni'ma, ça c'est une grande ni'ma qu'Allah Azzawajal il donne à qui il veut parmi ses serviteurs, subhanahu. Et lorsqu'on parle de ni'ma, Ibn al-Qayyim dans son livre et un peu plus loin il va nous parler également de ce qu'on appelle les bienfaits. Un ni'ma, son pluriel qui est al-ni'am, et que l'on traduit par les bienfaits, les bienfaits que l'on trouve dans cette vie d'ici-bas et également ce qui nous attendra dans l'au-delà. Il dit le shir rahimallah que al-ni'am thalatha, c'est-à-dire donc les bienfaits, ils sont de trois catégories. Le premier bienfait, ni'matun hasilatun ya'lamu biha al-'abd, un bienfait qui est acquis et dont le serviteur il en a connaissance, il en a pris conscience de cette ni'ma. Ça c'est la première. La deuxième, wa ni'matun muntadharatun yarjuha, la deuxième c'est un bienfait qui est lui espéré et attendu, donc il espère et il attend ce bienfait, il va faire tout en son possible pour pouvoir l'atteindre, ce bienfait. Ça, c'est le deuxième. Et ensuite, le troisième bienfait, et qui est le dernier, wa ni'matun huwa fiha wa la yash'uru biha, un bienfait qui est acquis, où il se trouve dans ce bienfait, alors qu'il ne le ressent même pas. Il ne ressent même pas qu'il est dans ce bienfait. Il n'a même pas conscience qu'il est dans ce bienfait. Et pourtant, c'est bel et bien un bienfait, et il en jouit, et il en tire profit. Tayyib. Ensuite, il va nous dire le shir. Après donc, il nous a fait connaître ces trois sortes de ni'ma. Ces trois sortes de ni'ma. Il n'y en a pas une quatrième, il y en a trois dans cette vie. Et il nous dit, et c'est un point qui est très important ensuite, il va nous dire si Allah Azzawajal, il veut compléter ce bienfait qu'il a déjà donné donc à son adorateur, à son serviteur. Qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps ? Arrafahu. Ni'matahu al-hadira. Il va lui faire connaître donc cette ni'ma. Il va lui faire connaître cette ni'ma. Tayyib. Donc on a bien vu, ça rentre ça dans la première catégorie. La personne, elle a une ni'ma, hasilatun, qu'il a donc acquérie. Et ensuite, ya'lamu biha al-abd. Donc ça va être la différence avec la troisième. C'est que là, ici, il y a l'ilm. C'est qu'il y a la prise de conscience et que la personne sache et sait cette ni'ma. Donc ça, c'est la première chose qu'Allah Azzawajal va faire avec son serviteur lorsqu'il veut compléter ce bienfait. C'est qu'il lui fait connaître et lui fait prendre conscience de cette ni'ma. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, وَاَعْطَاهُ مِنْ شُكْرِهِ قَيْدًا يُقَيِّدُهَا بِهِ حَتَّى لَا تَشْرَبْ. Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est qu'ensuite, il va lui donner, car Allah Azzawajal, c'est lui qui donne tout. Allah Azzawajal, il va lui donner donc la reconnaissance. Il va lui donner son accord pour qu'il soit reconnaissant. Ici, à Shukr. ici al-shukr, donc après la science. Ba'd al-ilm biha bihadhihi an-ni'ma al-shukr, c'est-à-dire donc la reconnaissance qu'il doit avoir de cette ni'ma. Si ensuite il lui donne son accord, waffaqahu hadha tawfiq min Allah azza wa jalla, que la personne soit reconnaissante par rapport à cette ni'ma, alors ça va être la deuxième chose qui va faire que le bienfait il va être complet. Et il va nous dire, et il va employer un terme, Ibn al-Qayyim, qui est important lorsqu'il dit qaydan. El-qayd, au niveau de la langue arabe, c'est comme une chose avec laquelle on rattache, par exemple une chaîne, etc. Et ici donc, ce qu'il veut dire par ce terme-là qu'il a employé, qaydan, c'est que ça va être comme une chaîne. Ce shukr-là, cette reconnaissance, ça va être comme une chaîne qui va retenir cette ni'ma, qui va la retenir cette ni'ma, afin qu'elle ne s'enfuit pas, afin qu'elle ne parte pas de son serviteur. C'est comme ça le shukr. C'est comme un qaïd. C'est comme en fait une chaîne qui va nous permettre de rattacher cette ni'ma. Et ensuite donc, de faire en sorte qu'elle reste avec nous cette ni'ma. Donc regardez, la première chose est l'ilm. Et la première chose est l'ilm, ou la connaissance. Et la deuxième chose, la reconnaissance. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième catégorie, celle qu'on attend et celle qu'on espère, alors ici, il nous dit « وَوَفَّقَهُ لِعَمَلٍ يَسْتَجْلِبُ بِهِ النِّعْمَةَ الْمُنْتَظَرَ » C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla va lui donner son accord, « وَفَّقَهُ » va lui donner son accord pour ce qui est de l'accomplissement donc d'actes, et qui vont lui permettre cet acte ou ces actes qui vont lui permettre donc d'acquérir et d'importer donc cette ni'ma qu'il attend. Donc ça également, de la part d'Allah Azza wa Jalla, ça permet de compléter ce bienfait, et qui est ici donc le deuxième, c'est-à-dire donc l'acquérir. Donc une fois qu'il l'aura acquéri, il restera donc les deux choses, qu'il se rend compte vraiment qu'il a eu cette ni'ma, et donc qu'il en ait la reconnaissance. Et également, il va lui faire prendre, ou il va lui donner clairvoyance pour ce qui est des voies qui vont empêcher d'aller et d'acquérir ce bienfait-là. Donc la personne, elle sait et elle va connaître par la grâce d'Allah Azza wa Jalla ces voies qui vont l'empêcher d'acquérir cette ni'ma, et donc il va s'en abstenir. Il ne va pas donc emprunter ces voies-là. Donc tout ça, ça tourne donc autour de Niyama, les catégories, et comment donc on doit préserver cette Niyama, et qu'est-ce que l'on doit faire pour atteindre cette Niyama, c'est-à-dire donc travailler et faire les asbab, donc les causes qui vont nous apporter cette Niyama dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Il va nous rapporter une parole d'un bédouin qui s'était présenté auprès de Al-Rashid, Al-Rashid, Dakhala Al-Rashid, et qui bien entendu qui était Amir al-Mu'minin à son époque. Il lui a dit cette parole-là, qu'on va traduire. Il lui a dit « Thabbat Allahu alayka al-ni'am allati anta fiha bi-idamati shukriha » Il lui a dit dans un premier temps qu'Allah Azza wa Jalla donc affermisse les bienfaits dans lesquels tu es. Comment cela ? « Bi-idamati shukriha » En te donnant donc cette reconnaissance, donc donnant son accord, qu'il te donne son accord pour que tu sois reconnaissant, et ça de façon continuelle. Bi-idama, bi-dawam, donc de manière continuelle. وَحَقَّقَ لَكَ النِّعَمَ الَّتِي تَرْجُوهَا بِحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ وَدَوَامِ طَاعَتِهِ Et ensuite, qu'Allah Azza wa Jalla donc concrétise pour toi ces bienfaits ou les bienfaits que toi tu espères. Comment cela ? بِحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ Il pense par rapport à Allah tout ce qui est de bien, et qu'il est toujours un bon avis envers Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, حُسْنِ الظَّنِّ. Ça c'est la première chose, حُسْنِ الظَّنِّ. Et ensuite, وَدَوَامِ طَاعَتِهِ Et donc que tu continues, et ça de manière donc en persévérant, que tu continues dans sa ta'a, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Donc là, pour que donc tu atteignes ce que tu veux comme ni'ma. Et ensuite, et ça, ça va être la troisième partie qui va être contenue dans la parole de ce bédouin. وَعَرَّفَكَ النِّعَمْ أَلَّتِي أَنْتَ فِيهَا وَلَا تَعْرِفُهَا لِتَشْكُرَهَا. Et donc ensuite, comme on l'avait expliqué, il va lui dire, et qu'il te fasse connaître, Allah Azzawajal, les bienfaits dans lesquels tu es, dans lesquels tu vis, et que cette connaissance donc, qu'il t'aura ensuite donnée, soit accompagnée bien entendu, et dans le but que tu sois reconnaissant. فَعَجَّبَهُ ذَلِكَ مِنْهُ وَقَالْ مَا أَحْسَنَ تَقْسِيمَهُ. Et donc, ça lui a plu, ce qu'il a entendu de ce Arabi, qui était une parole véridique. Il lui a dit, quel beau partage, c'est-à-dire quel beau, comment il a partagé ses bienfaits, et comment il les a placés dans chaque catégorie. « Ma ahsana taqsimahu » Quel beau partage. Donc ça, c'est pour ce qui est de « an-ni'am » les bienfaits. Bien entendu, « an-ni'am » et les bienfaits sont des choses qui sont utiles pour la personne. Comme on l'a vu et comme on l'a expliqué à travers cette parole de Ibn al-Qayyim, lorsque la personne s'est en tiré profit, c'est profitable pour lui dans cette vie d'ici-bas. Et Inch'Allah, kadhalik, fil au-delà, lorsqu'il en est reconnaissant. Si maintenant on regarde son opposé, ce qui ne va pas être profitable pour l'homme, alors on va voir que dans ce livre, Al-Fawa'id, Ibn al-Qayyim va nous rapporter 10 choses. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, va nous rapporter donc 10 choses. Qui ne sont d'aucune utilité pour qui ? Pour son auteur. Asharatun la yuntafa'u biha. Donc 10 choses qui ne sont pas profitables. 10 choses. Il va les citer. Il va nous dire la première chose, ilmun la yu'malu bih. Donc une science qu'on ne pratique pas. Une science qu'on a appris mais qu'on ne pratique pas. Cette science-là, elle va devenir par rapport à son auteur une chose dont il n'aura pas profité. Et bien entendu, Hadal Bab, c'est-à-dire ce chapitre, et qui est la science, et l'acte, et l'accomplissement des actes, c'est un grand chapitre. Où même certains savants ont écrit des rasa'il, des épîtres sur ce sujet, tellement que c'est important. Bien entendu, on ne va pas développer, le shir, ici, il nous énumère sans rentrer dans les détails. Et on reviendra par rapport à l'ilm, lorsqu'on verra plus tard, lorsque Ibn al-Qayyim va nous parler également de la science, il va nous parler des savants. Il va nous parler des savants du mal ou des mauvais savants. Ulama sou. Ensuite, il nous dit wa amalun la ikhlas fihi wa la iqtida. Wa amalun la ikhlas fihi wa la iqtida. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un acte, après qu'il ait parlé donc de science, il parle de l'acte. Un acte où il n'y a pas une pure intention, dans ce qu'on appelle l'ikhlas envers Allah Azzawajal, et où il n'y a pas l'irtida, le fait de suivre. Et là, on va se rendre compte qu'il va bien placer ici Ibn Qayyim, lorsqu'il dit cette parole, on va se rendre compte qu'il va mettre en évidence, pour ceux qui l'auront compris, les deux conditions d'acceptation de l'acte. Sachant que la première condition d'acceptation de l'acte, شروط قبول الأعمال qui sont de deux شرطين c'est l'ikhlas, c'est l'ikhlas, et la deuxième c'est l'iqtida, le fait de suivre le prophète sallam, le fait de suivre de façon générale la religion ou la législation, que ce soit le Coran et la sunna. Donc un acte qui est fait suivant la sunna du prophète sallam mais où il n'y a pas d'ikhlas, la yantafi' bihi sahib, c'est-à-dire celui qui fait cela il ne profite pas. Et d'un autre côté, un acte qui est fait avec ikhlas, on veut par là la face d'Allah Azzawajal, Wajallah. Mais on le fait en empruntant une voie qui n'est pas celle de la sunna. Est-ce que ça va être profitable à son auteur? Non, ce ne sera pas profitable. Même s'il a eu l'ikhlas dans cela, ça ne sera pas profitable parce qu'il n'aura pas employé et il n'aura pas suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cela. Et donc ici, il aura perdu soit la première condition ou la deuxième condition. Et bien sûr, ceux qui sont encore pires, et les pires de tous, ce sont ceux qui vont perdre les deux conditions. Ils vont faire des actes où il n'y a même pas d'ikhlas et qui ne suivent même pas la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, وَمَالٌ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ. C'est-à-dire qu'il a un bien qu'il possède, العبد, le serviteur, et dont il ne donne pas, et dont il ne dépense pas. Il nous dit فَلَا يَسْتَمْتِعُ بِهِ جَامِعُ فِي الدُّنْيَا وَلَا يُقَدِّمُ أَمَامَهُ إِلَى الْآخِرَةِ. Il nous dit donc que cette personne-là, elle ne va pas profiter de ce bien qu'il a rassemblé dans cette vie d'ici-bas. Et combien on voit de gens qui ils amassent l'argent, ils rassemblent l'argent, ils font du commerce, ils amassent l'argent, et ils donnent rien de cet argent-là, fisabilillah, dans le chemin d'Allah. Ils ne donnent pas aux pauvres, ils ne donnent pas dans le chemin d'Allah, ils ne donnent pas dans le chemin de la da'wah. Cet argent-là qu'ils ont amassé, lorsqu'ils vont mourir, est-ce que cela va leur profiter? Dans un premier temps, ils n'auront pas profité dans cette vie d'ici-bas. Parce qu'ils ont eu, c'en est devenu presque une maladie, de vouloir amasser l'argent et de vouloir gagner toujours plus. Et la deuxième chose, ça ne sera pas profitable pour eux dans l'au-delà. Donc regardez, c'est quelque chose qui n'a aucune valeur et dont son auteur ne saurait en profiter s'il agit ainsi. Wallah al-musta'an. Ensuite, et ça c'est la quatrième chose, وَقَلْبٌ فَارِغٌ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَالشَّوْقِ إِلَيْهِ وَالْإِنْسِ بِهِ. Un cœur qui est vide. Un cœur qui est vide de quoi? De l'amour d'Allah Azzawajal et du désir que l'on doit avoir envers Allah Azzawajal. Le désir de sa rencontre, le désir de sa satisfaction. Et le fait qu'on soit donc proche de lui, la proximité d'Allah Azzawajal, de par son cœur, qu'on soit proche d'Allah Azzawajal, de par les bonnes actions que l'on fait, de par l'obéissance. Un cœur qui est vide de cela, de l'amour d'Allah Azzawajal et du désir envers lui, et un cœur qui n'est pas proche d'Allah Azzawajal, c'est un cœur dont on ne profite pas. C'est un cœur dont on ne profite pas. Lorsqu'il a parlé du qalb, et qui est le centre même du corps humain, comme le prophète nous l'a dit, si cette partie du corps est détériorée, alors c'est tout le corps qui est détérioré. Et si elle est bonne, si elle est salière, si elle est droite, c'est tout le corps qui est droit. Ensuite donc il va aller vers ce qui est plus général, il va nous parler du badan. Donc al-badan qui est le corps et donc tous les membres. Wa badanun mu'attalun min ta'ati wa khidmati. Et donc un corps qui va être inutilisé ou que l'on ne va pas utiliser pour ce qui est de ta'a, l'obéissance, et pour ce qui est le service. C'est-à-dire servir Allah Azza wa Jalla, servir sa cause. Un corps qui est inutilisé pour cela, c'est un corps également dont on ne profite pas. Ensuite, il va nous dire le shir, c'est le sixième, وَمَحَبَّةٌ لَا تَتَقَيَّدُ بِرِضَاءِ الْمَحْبُوبِ وَإِمْتِثَالِ أَوَامِرِ. Regardez également comme c'est important cela, c'est un amour. On a un amour, tayyib. Un amour qui n'est pas restreint à la satisfaction de celui qu'on va aimer et qui n'est pas restreint également à l'accomplissement de ses ordres. Ça, c'est un amour qui n'a aucune valeur. La personne maintenant qui dit que j'aime Allah, lorsqu'on lui pose la question, est-ce que tu aimes Allah Azza wa Jalla, et cette personne elle dit Naam, j'aime Allah, et tu la vois, c'est une personne qui ne fait pas d'acte d'obéissance, c'est une personne qui ne porte aucun intérêt à satisfaire son Seigneur. Est-ce que cette personne-là, même il est da'a, s'il prétend qu'il a un amour pour Allah Azzawajal, qu'il a un amour pour la religion, etc., est-ce que cet amour, son soi-disant amour, va lui profiter? Ça ne va pas lui profiter. Aucunement, cet amour-là, ou ce soi-disant amour. Ensuite, وَوَقْتٌ مُعَطَّلٌ عَنْ إِسْتِدْرَاكِ فَارِطٍ عَنْ إِسْتِدْرَاكِ فَارِطٍ أَوْ إِخْتِنَامِ بِرٍ أَوْ إِخْتِنَامِ بِرٍ وَقُرْبَةٍ. Un temps, maintenant il va venir au temps, le temps qu'on a, ce temps qui est si précieux pour le croyant. Un temps qui va donc ne pas être utilisé dans le fait de rattraper ce qu'on a manqué, comme par exemple ce qu'on a manqué comme ta'a, ce qu'on a manqué comme obéissance, etc. Ou alors qui ne sert pas ce temps-là, qui ne sert pas à profiter d'une occasion pour ce qui est d'un acte de piété ou de rapprochement. Aw irtinami birrin wa qurbatin. Ça, c'est également un temps qui ne sert à rien à son auteur et qui n'est pas profitable. Ensuite, il nous dit wa fikrun yajulu fi ma la yanfa. C'est-à-dire une pensée qui va voguer et qui va se balader dans ce qui n'est pas utile. Fi ma la yanfa, dans ce qui n'est pas utile, que ce soit donc pour sa vie d'ici-bas ou pour l'au-delà. Wa fikrun yajulu fi ma la yanfa. Et ensuite wa khidmatun aw khidmatu ma la tuqarribuka khidmatu ila Allah wa la ta'udu alayka bi salahi dunyak wa la ta'udu alayka bi salahi dunyak. Et ensuite un service, ce service là que tu vas faire, tu vas le faire pour quelqu'un, et cette personne là ce service que tu lui as donné, ça ne te rapproche pas d'Allah Azzawajal. Et ça ne t'apporte rien dans ta vie d'ici-bas. Donc c'est un service que tu as rendu et qui ne te servira donc ici également à rien du tout. Donc tu as servi une personne qui ne t'a pas, de par ce service, qui ne t'a pas profité de te rapprocher d'Allah Azzawajal, comme le fait, par exemple, d'avoir servi ton frère, fillah, et cela afin que tu te rapproches d'Allah Azzawajal. Non, ce service-là ne rentre pas dans cela. Ça ne te sert à rien, ça ne te permet pas de te rapprocher de ton Seigneur. Ou alors, qui n'a pas de faïda, qui n'a pas donc de bénéfice pour ce qui est de cette vie d'ici-bas. Pour ce qui est donc de cette vie d'ici-bas. Et qui t'est profitable dans cette vie d'ici-bas. Ensuite, il dit Ibn Qayyim, wa khawfuka wa raja'uka liman nasiyatu biyadillah. وهو أسير في قبضته ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Il nous dit ici Ibn Qayyim, la peur et ta peur à toi, et également ton espoir que tu as, que tu possèdes, la peur que tu possèdes, la peur que tu as, l'espoir que tu possèdes, envers qui? Envers une personne qui lui est en réalité sous le contrôle d'Allah Azzawajal, dont Allah Azzawajal a un pouvoir absolu sur lui, et qui en réalité, comme nous l'aime le Qayyim, huwa asirun fi qabbati, qui est comme un prisonnier dans sa poigne, subhanahu wa ta'ala, et qui ne possède donc pour lui-même, pour cette personne dont tu as peur, et cette personne dont tu as l'espoir de lui pour ces choses, ou pour les choses qui lui-même ne possède pas pour lui, un bienfait, qui ne peut s'écarter d'un mal de par lui-même, si ce n'est de par son Seigneur, et qui ne peut repousser la mort, et qui ne peut également préserver sa vie, etc. Également, cette peur et cet espoir ne sont d'aucune utilité pour l'abd. Il va nous dire ensuite, Ibn Qayyim, que la plus grande de ces pertes-là, « وَأَعْظَمُ هَذِي الْإِضَاعَةِ إِضَاعَةً » Il y en a fait deux. Il y a donc deux choses qui sont réellement et qui sont les plus grandes pertes dans cette vie. Huma aslu kulli ibaratin. Huma aslu kulli ibaratin. C'est-à-dire que ces deux pertes sont les bases de toutes les autres pertes. Il nous dit la première, ibaratul qalb wa ibaratul waqt. Ça, c'est pour la deuxième. Donc la perte du cœur, wa ibaratul waqt. Et perdre son temps. Donc perdre son cœur dans ce qui n'est pas utile pour l'homme, et perdre donc son temps dans ce qui n'est pas utile également pour l'homme. فَإِضَاعَةُ الْقَلْبِ مِنْ إِثَارِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. C'est-à-dire donc perdre son cœur dans quoi? Lorsqu'on va préférer la vie d'ici-bas par rapport à celle de l'au-delà. Ça, c'est ce qui va être la plus grande des pertes, et c'est ce qui va être à l'origine de toutes les autres pertes. Lorsque l'on perd son cœur dans cela, on met son cœur en perdition. Lorsqu'on préfère cette vie d'ici-bas et qu'on la fait passer en priorité sur l'au-delà. Et donc la deuxième, qui était donc la perte du temps, وَإِضَاعَةُ الْوَقْتِ مِنْ طُولِ الْأَمَلِ. Ça également, c'est une grande moussiba. Et c'est une base de toutes les autres pertes. C'est-à-dire donc perdre son cœur, son son temps, Arfan, perdre son temps lorsqu'on a donc un long espoir. Ou tout l'amal, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire lorsque la personne, elle dit, j'ai encore du temps devant moi pour me rapprocher d'Allah, pour délaisser cela, pour délaisser ses péchés, pour me rapprocher d'Allah, pour commencer à prier, etc. Comme on voit beaucoup chez les jeunes qui disent, c'est pas encore pour moi, j'ai encore du temps, je suis encore jeune, etc. Ils savent pas que peut-être demain Allah Azzawajal les fera mourir. Et ça, donc, perdre son temps par rapport à cela, Tayyib, ça fait partie donc des plus grandes pertes chez l'homme. Des plus grandes pertes, wallah al-musta'an. Et qui sont donc ces deux pertes qui sont la base et la source de toutes les autres pertes qui vont venir chez l'homme. C'est pour ça qu'il va nous dire ensuite. فَاجْتَمَعَ الْفَسَادُ كُلُّهُ فِي اتِّبَعَ الْهَوَى وَطُولِ الْأَمَلِ. Regardez. C'est-à-dire que le façad, la perdition, la dérive, la déviance, et tout ce qui rentre dans le préjudice, cela, ou cette perdition, on va le retrouver. Et il va se rassembler dans deux choses. Il va se rassembler, il va devenir donc total chez l'homme lorsque cette personne-là va faire deux choses. C'est lorsqu'elle va suivre donc son hawa, sa passion, et donc elle va faire passer la vie d'ici-bas sur le-delà. Et lorsqu'elle va avoir, donc, par rapport au qalb et par rapport au waqt, lorsqu'elle va avoir donc le long espoir. Si ces deux choses sont réunies chez l'homme, alors il faut savoir qu'il est dans le plus grand des façades. Un façade qui est complet. Un façade qui est complet, une détérioration qui est complète de son corps, de son cœur. Donc la droiture. La droiture, kulluhu wa salahu kulluhu fi ittiba' al-huda wa al-isti'dadi lil-liqa. Wa al-isti'dadi lil-liqa. Et donc, bien au contraire, et en opposé à cela, la droiture va être présente chez l'homme totalement lorsqu'il va suivre la voie droite et lorsqu'il va se préparer, lorsque son temps il le prépare ou il l'occupe pour se préparer à l'au-delà. Cette personne-là, c'est celle qui réellement a réuni cette droiture, as-salah. Par contre, l'autre, lui, sera l'opposé. Et il aura réuni El Fassad de par ces deux choses. Wallah al-musta'an. Et lorsqu'on a parlé de ce qu'on appelle la salah, lorsqu'on a parlé de la droiture, et on a parlé également du qalb, on a parlé du cœur, et on a parlé du temps, alors on va revenir à une question qui est indirectement liée ou qui est directement liée. Qui est directement lié, Nam, c'est une question qui va se poser ici. Et donc, c'est ce que va traiter également le Cheikh dans son livre un peu avant, ou bien avant. Sachant que son livre, Al-Fawaid, c'est simplement entre parenthèses, il n'y a pas un ordre qui est précis. C'est-à-dire que le Cheikh va tout simplement venir avec des points qui sont différents, sans un ordre particulier, mais qui sont très intéressants et qui regorge le trésor, etc. Comme on connaît et comme on sait le niveau de Ibn Qayyim lorsqu'il parle de la religion, et lorsqu'il parle du cœur, et lorsqu'il parle de tout ce qui est en relation avec la religion, subhanallah. À la kulli hal, on va revenir donc à cette question que l'on va poser et qui est la suivante. Est-ce que le fait de délaisser un ordre, c'est plus important que de faire ou d'accomplir un péché, de tomber dans la désobéissance? Cette question que l'on va poser. Est-ce que le fait de délaisser un ordre, tark al-amr, est-ce que c'est plus important ou pire que de faire et d'accomplir ici ce qui est interdit? Et la réponse, c'est la suivante. Et c'est celle que va nous donner Ibn Qayyim. C'est tout simplement tarkul awamir, le fait de délaisser un acte qui est lui obligatoire est pire. Et pire donc que le fait de faire un acte qui est interdit. Le fait d'accomplir une interdiction, c'est pire. Et le shir, il va développer sur beaucoup de points et en faisant ressortir, exposant beaucoup d'aspects sur cette question-là qui est importante. Et pourquoi on va en parler ? On va voir qu'à travers cela, on va profiter de beaucoup de choses et que le croyant, il va avoir, ça va lui permettre d'avoir une basira, d'avoir clairvoyance sur des points qui sont importants au niveau de la religion. Naam. Des points très importants de la religion lorsque Ibn al-Qayyim il va développer cette question-là et qui est une question qui est importante. C'est de savoir qu'est-ce qui est le pire entre ces deux choses. Que je délaisse un ordre ou alors que je fasse un péché, que je fasse une désobéissance. Et la réponse, bien entendu, il va la développer ensuite le shir, c'est que le fait de délaisser un ordre, c'est plus important et encore pire que faire une interdiction. Il va nous rapporter le premier argument. Donc il va citer des arguments par rapport à cette question-là. Ibn al-Qayyim va citer beaucoup d'arguments. Et c'est à travers ces arguments et ces aspects de réponse, on va pouvoir profiter de beaucoup de choses. Il nous dit, il va nous rapporter d'abord la parole, qui est le premier argument de Sahl ibn Abdillah. Il nous dit, ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. C'est-à-dire donc le fait de délaisser un ordre, c'est auprès d'Allah Azzawajal pire que d'accomplir une interdiction. La cause de cela, donc ça c'est le premier argument qu'il va nous apporter. Parce que Adam, لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه. Adam, donc notre père, le père de l'humanité, lorsqu'on lui a interdit de manger de l'arbre et qu'il a mangé de cet arbre-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a accompli donc une interdiction. Ça, c'était un naï. Il a accompli donc cette interdiction lorsque le shaitan lui a insufflé le mal. Allah al-Musta'an. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? C'était le début de l'histoire humaine. فَأَكَلَ مِنْهَا فَتَابَ عَلَيْهِ. Et qu'est-ce qu'il a fait ? كَمَا نَصَّ الْقُرْآنَ عَلَى ذَلِكَ. Comme le Coran nous l'a cité, il a fait un acte de repentir. Et Allah Azzawajal a accepté son repentir. Ça donc, c'est pour ce qui est de فِعْلَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ. Le fait de faire ce qui est interdit. Et l'autre, ici, et qui est Iblis. Iblis, le diable. أُمِرَا أَنْ يَسْجُدَ لِآدَمْ. Lui, c'est un ordre qu'on lui a donné. C'est pas une interdiction, c'est un ordre qu'on lui a donné. Et cet ordre-là, bien entendu, comme tout le monde le sait, c'est qu'il se prosterne devant Adam. Falam yasjud, falam yatub ali. Et il ne s'est pas donc, Iblis, il ne s'est pas prosterné. Donc il n'a pas fait, il a délaissé quoi ? L'acte qui était obligatoire. Et Allah Azzawajal n'a pas accepté de repentir par rapport à cela. Donc regardez, ça c'est le premier argument. Pour savoir que celui qui va délaisser une obligation, ça va être encore pire auprès d'Allah Azzawajal que celui qui va faire une désobéissance. Le deuxième argument, et qui est également important à connaître, il va nous dire que la source de l'accomplissement de l'interdiction, quelle est cette source ? D'où c'est venu ? Pourquoi l'homme, et bien entendu c'est dans la plupart des cas, pourquoi l'homme il va faire un acte qui lui est interdit. Il va tomber donc dans l'interdiction. Il va nous dire masdaruhu fil ghalib, dans la plupart des cas, ash-shahwatu wal haja. C'est-à-dire donc le désir et le besoin. Ou le désir, ash-shahwa. Ce qu'on appelle donc ash-shahwa, ce désir. Un désir qu'il a eu, ce qu'il a fait tomber dans le haram. Ou le haja, un besoin qu'il a eu, et il est tombé dans le haram. Un besoin par rapport à lui en fait, bien entendu. Entre parenthèses. Alors que, et c'est pour ça qu'on va s'apercevoir à partir de cela, à partir de ce masdar, à partir de cette source-là, la source de ces deux actes, qu'il y en a un qui est bien pire que l'autre. Et il nous dit que celui qui va délaisser l'amr, et comme c'est ce qui est arrivé avec Iblis, celui qui va délaisser l'amr, celui qui va donc délaisser l'ordre, masdaru fil ghalib. C'est-à-dire donc, masdaru fil ghalib, bien entendu, c'est dans la plupart des cas. Sa source est al-kibr ou al-izza. C'est tout simplement l'orgueil et le fait de se sentir plus haut que l'ordre qu'on lui a donné. Donc regardez al-masdar au niveau des deux sources, il y en a une qui est bien entendu plus importante que l'autre. Et qui a amené Iblis à faire partie des mécréants. Wallah al-musta'an. Et comme il nous le rappelle Ibn al-Qayyim, qu'il ne rentre pas ou que personne ne rentre dans le paradis comme cela nous a été informé par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, que personne ne rentre dans le paradis. Celui qui a dans son cœur ce fût, l'atome même d'orgueil, un atome d'orgueil, cette personne-là ne rentre pas au paradis par rapport à l'orgueil. Donc regardez l'important, c'est qui ici, dans la plupart des cas, la source du délaissement de l'ordre. Par contre, celui qui est donc tombé dans le haram, qui a fait ici l'acte de désobéissance, qui est tombé dans le haram, par exemple qui a fait le zina, l'adultère, ou alors par exemple qui a volé, cette personne-là, si elle meurt sur le tawhid, et ça c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus, regardez déjà un point qui va apparaître au niveau de la croyance, cette question-là qui est importante, que si la personne qui a concrétisé le tawhid et les bases du tawhid, mais qui a fait un acte qui est interdit, qui est tombé donc dans l'interdiction, comme par exemple zina et autres, alors cette personne-là, elle rentre au paradis. Cette personne-là, elle rentre au paradis. Même si elle a purgé une peine dans l'au-delà, à la fin, elle rentrera au paradis. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna, du consensus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous l'a apporté et nous l'a informé du hadith de Abu Dharr, radiallahu ta'ala anhu, et qui est un hadith muttafaqun alayh, qui est rapporté par l'imam Muslim et l'imam Al-Bukhari, et qui est bien entendu une preuve plus que évidente et plus qu'explicite contre ceux qui disent le contraire et qui sont bien entendu dans cette question-là, Al-Khawarij, et ceux qui les ont suivis. Il nous rapporte qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dharr, Atani atin min rabbi fa akhbarani aw qal basharani. Que quelqu'un est venu le voir de la part de son Seigneur et qui lui a informé. Ou, dans une autre version, aw qal basharani, qui lui a fait donc la bonne annonce. Annahu man mata min ummati la yushrik billahi shay'a. Celui qui meurt parmi ma communauté et qui n'a fait d'acte d'association, qui n'a associé à personne Allah Azzawajal ou quoi que ce soit, dakhara al-jannah, il rentre dans le paradis. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qult, et Abu Dharr, il va lui poser la question pour que ensuite ce soit des plus explicites et des plus clairs. Wa in zana wa in sarq, et même si cette personne-là, elle a fait l'acte d'adultère et elle a volé, قال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال, wa in zana wa in sarq, c'est-à-dire même s'il a volé et même s'il a fait l'acte d'adultère et même s'il a volé, même s'il a forniqué et même s'il a volé, il rentre au paradis tant qu'il est mort sur le tawhid et qu'il n'a jamais rien associé à Allah Azzawajal. Ensuite, et ça va être le troisième argument, il va nous dire Ibn al-Qayyim, que l'acte ou accomplir ce qui est obligatoire, c'est plus aimé auprès d'Allah Azzawajal que délaisser ce qui est interdit. L'accomplissement de ce qui est obligatoire est plus aimé auprès d'Allah Azzawajal que du délaissement de ce qui est interdit. Ça également, il faut bien réfléchir à ce qu'il va dire Ibn al-Qayyim, et c'est un argument qui est fort. Comme les nusus, donc les nusus, que ce soit le livre ou la sunna, ont indiqué. Il va nous donner des exemples, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ahabbul a'mali ilallah as-salatu ala waqtiha. C'est-à-dire, ce qui est le plus aimé auprès d'Allah Azzawajal comme acte, c'est la prière à son temps. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ce qu'Allah Azzawajal aimait le plus. Il ne nous a pas informé d'un délaissement, un tarq, il nous a informé d'un acte, et qui est bien entendu l'acte d'obéissance, qui est l'acte de ce qui est obligatoire. Également, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ala unabbiukum bi khayri a'malikum wa askaha 'inda malikikum, c'est-à-dire, ne vais-je pas vous informer de ce qui est du meilleur de vos actes et du plus pur auprès de votre maître, et qui va être ce qui est de plus élevé pour vos bonnes actions, pour vos degrés, qui va donc vous élever le plus en degrés, et qui va être encore meilleur que lorsque vous rencontrez vos ennemis et que vous les frappez, ou que vous frappez donc leur coup et qu'eux ils frappent leur coup. Bien entendu, ici, le prophète sallam fait allusion au djihad, fi sabilillah, au djihad. Qalu bala ya Rasulallah. Les compagnons, ils vont dire, bien entendu, au prophète d'Allah. Qal, dhikrullah. Dhikrullah. Tout cela, tout ce qu'il a cité, ce qui va être meilleur, dhikrullah. C'est-à-dire le rappel d'Allah Azouja. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici que la meilleure des actions, ou ce qui va être le plus aimé, c'est bien l'accomplissement d'un acte, l'accomplissement donc de l'acte. وَتَرْكُ الْمَنَاهِ. Ensuite il va dire Ibn Qayyim, وَتَرْكُ الْمَنَاهِ عَمَلْ فَإِنَّهُ كَفٌّ عَنَ الْفِعْلِ وَلِهَذَا عَلَّقَ سُبْحَانَهُ الْمَحَبَّةَ بِفِعْلِ الْأَوَامِرِ كَقَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Ici il va nous dire également Ibn Qayyim, et ça c'est une question qui revient fil usul, dans les bases, c'est que tark, le délaissement lui-même, il va être considéré comme un acte. Le délaissement lui-même, il va être considéré comme un acte. Pourquoi ? Parce que la personne, en réalité, elle a fait ce qu'on pourrait appeler un acte de délaissement. Un acte de délaissement. C'est lorsqu'elle voulait faire quelque chose, et elle voulait faire un acte qui est interdit. Et à ce moment-là, elle ne le fait pas, elle retient donc, elle se retient de faire cela. Il y a bien eu ici un acte qui vient de se passer, taïb. Et cet acte-là, il s'est traduit par le délaissement. C'est pour ça que l'on dit que tark, et le fait de délaisser ce qui est interdit, c'est également considéré comme un amal. Donc c'est également considéré comme un acte. Et Allah Azzawajal, dans le Coran, il va raccrocher donc son amour par rapport aux actes, sachant donc que ici, tark al-manahi, c'est considéré comme un amal. Il va raccrocher son amour à un amal, mais qui est lequel, celui-là ? Celui de faire les bonnes actions, ou celui de faire ce qui est ordonné. Celui qui est de faire ce qui est ordonné. Et non, qui est de faire, et donc qui est d'accomplir un acte, et cet acte-là qui va être de délaisser, vu qu'il est considéré comme un acte. Taïb, c'est dans ce sens que Ibn Qayyim va nous préciser, et qui va nous démontrer, à travers cet argument, que lorsqu'Allah Azza wa Jal, il raccroche son amour à un acte, cet acte-là, c'est lequel ? Et c'est tous les exemples qu'il nous a donnés, à travers le Coran, c'est tout simplement l'accomplissement de ce qui est obligatoire. C'est pour ça qu'il dit Allah Azzawajal, Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili saffa. Allah Azzawajal, il aime ceux qui combattent dans sa voie en rangée. Wallah yuhibbu al-muhsinin. Et Allah Azzawajal, il aime qui ? Al-muhsinin. Il aime donc ceux qui sont bienfaisants. Wa aqsitu, Inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Et Allah Azzawajal, yani soyez juste. Faites preuve d'équité. Allah Azzawajal, il aime ceux qui sont justes. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Et donc Allah Azza wa Jalla, il aime les patients. Donc tout ça, c'est des ordres qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné, d'être patient, de faire preuve d'équité, de combattre dans son chemin en unité. Donc tout cela, ce sont ish al-awamir aw fi'l al-awamir, l'acte et l'accomplissement de ce qui est obligatoire. Amma fi janib al-manahi. Amma fi janib al-manahi. Pour ce qui est maintenant de ce qu'on appelle al-manahi, donc de ce qu'on appelle les interdictions, et on a bien vu, on a bien dit que celui qui délaisse l'interdiction, ou le fait de délaisser une interdiction, c'est comme un acte. Ici, va nous démontrer Ibn Qayyim à travers les versets du Coran qu'il va citer ensuite. Fa aktharu ma ja'a an-nafi lil-mahabba. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nier son amour pour ce qui est donc al-manahi. Comme il dit Allah Azza wa Jalla, Wallahu la yuhibbu al-fasad. Et Allah Azza wa Jalla n'aime pas donc le désordre. Et Allah n'aime pas le désordre. Donc ici, le fasad, c'est ce qui est interdit. Et Allah Azza wa Jalla ne l'aime pas. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin. Etc. Donc on voit que dans tous ces versets-là, Allah Azza wa Jalla, il a nié son amour pour ces actes-là, qui sont donc les actes de désobéissance et qui rentrent donc fil manahi dans les interdictions. Donc on voit également ici l'aspect qui va faire que le fait de délaisser un acte, et cet acte-là qui est l'accomplissement de l'ordre d'Allah Azzawajal, est pire que de tomber fil marsiya, que de tomber dans ce qui fait partie des interdictions, de la désobéissance. Il va nous faire prendre conscience, Ibn Qayyim, qu'à partir de là, Il va nous dire فَفِعْلُ مَا يُحِبُّهُ سُبْحَانَهُ مَقْصُودٌ بِالذَّاتِ مَقْصُودٌ بِالذَّاتِ. C'est-à-dire, il va nous dire, Ibn al-Qayyim, après ce qu'il a cité auparavant, que l'accomplissement de l'acte, c'est un but en soi-même. مَقْصُودٌ بِالذَّاتِ, c'est un but en soi-même. Donc le but en soi-même, c'est quoi? C'est de faire ce qu'Allah Azza wa Jalla il aime. Et le but, ce n'est pas de ne pas faire ce qu'il aime pas. Le but, c'est de faire ce qu'il aime. Donc on voit bien ici qu'il y a également une grande différence entre les deux choses. Il va nous rappeler ici également un point qui est essentiel, toujours dans cet argument, qui est le troisième argument. Il va rentrer également dans une question de qadar, dans une question dont on avait traité durant les cours les repères de la sunna, et qui est en relation avec al-qadar, avec la prédestination, et qui va être la suivante. وَلِهَذَا يُقَدِّرُ مَا يَكْرَهُ وَيَسْخَطُ لِيْفْبَئِ إِلَى مَا يُحِبْ. On sait qu'Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu, fil qadar, qu'Allah Azza wa Jal, il a créé toute chose. Qu'Allah Azza wa Jal, il a prédestiné toute chose, subhanahu wa ta'ala. Que tout vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Que ce soit le bien ou que ce soit le mal. Ça, on l'a expliqué, on l'a détaillé dans le cours de la prédestination, al-qadar. Il va nous dire ici, Ibn al-Qayyim, qu'Allah Azza wa Jal, il a prédestiné ce qu'il déteste et ce qui le met en colère afin que l'on en vienne à ce qu'il aime. Comme il a prédestiné al-ma'asi, les péchés. Comme il a prédestiné al-kufr. Comme il a prédestiné al-fusuq, la perversité, la mécréance, etc. Qu'est-ce qui va se raccrocher à ces choses-là qui ont été prédestinées? Il va se raccrocher une chose et qui est en réalité le bien. Pourquoi? Allah Azza wa Jal, il a qaddara al-ma'asi. Allah Azza wa Jal, il a prédestiné al-ma'asiya, le péché. Et la personne est tombée dans le péché. Qu'est-ce qui va se passer après ce péché-là? Lorsque la personne, elle fait tawba, lorsque la personne, elle va faire un acte de repentir. At-tawba, n'est-ce pas un des actes qui est le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jalla? At-tawba. Donc le fait qu'il y ait eu cette prédestination du péché et qu'il est tombé dedans et qu'ensuite l'abd, qu'ensuite le serviteur il a fait un acte de tawba, ça va être pour lui un bien et ça va être pour lui rafat darajat, ça va être pour lui un moyen de s'élever auprès d'Allah Azza wa Jalla. Après qu'il a fait une tawba, comme également on l'a expliqué en détail quelles sont les conditions de la tawba dans des cours précédents, alors à ce moment-là, ça va être pour lui un bien. Donc regardez comment ici Ibn al-Qayyim, il va venir cette question de la prédestination pour bien nous prouver et mettre en évidence que celui qui va faire l'acte qui lui est obligatoire, c'est ce qui est de plus grand. Et que le fait qu'il délaisse cet acte qui est obligatoire, c'est ce qu'il y a de pire. Pire encore que le fait de faire un acte qui est interdit. Et on le voit que ça apparaît ici également. Fibab al-Qadar, dans la question de la prédestination. Et également, un autre exemple que l'on donne, qui nous a donné Ibn al-Qayyim, le fait d'aimer en Allah, le fait de détester en Allah, donc le fait d'aimer le bien, le fait d'aimer le tawhid, le fait d'aimer les gens du tawhid, le fait de détester le mal, le fait de détester le shirk, le fait de détester les gens de l'associationnisme, etc. Tout cela également, ça va être un bien pour la personne. Pourquoi? Parce que ces choses-là ont été présentes du mal. Mais lui, le fait qu'il les a détestées, le croyant, le fait qu'Allah Azza wa Jalla l'a guidé, qu'il les a détestées, alors pour lui, c'est un bien. Et pour lui, bien entendu, c'est ce qui va concrétiser sa foi. Lorsqu'on rentre, fil wala ou al-bara, le fait d'aimer, le fait de détester Allah Azza wa Jalla. Encore un autre exemple. Il donne d'autres exemples. Ibn al-Qayyim. Alors, kulli hal, ici donc, ça nous prouve bel et bien que le fait de délaisser un acte qui est obligatoire, c'est pire que de faire un acte qui est interdit, une interdiction. Et c'est pour ça qu'à partir de là, et il va mettre en évidence ce qu'il a cité dans l'argument numéro 3 et le faire apparaître encore plus dans l'argument numéro 4, il nous dit en réalité que fi'l al-ma'mur maqsoud li-dhati, comme on l'a dit. On a dit donc le fait de faire un acte obligatoire, c'est ce qui est c'est un but en soi-même. C'est un but en soi-même. Alors que tark al-manhi maqsoudun li-takmil fi'l al-ma'mur. Alors que le fait de délaisser l'acte qui est interdit, c'est en réalité afin de compléter ce qui a été obligatoire. C'est donc un complément. C'est pour ça qu'il nous dit Ibn al-Qayyim que la chose qui est interdite, cette chose-là, lorsqu'on va la faire, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement se passer qu'elle va affaiblir l'accomplissement de l'ordre. فَوَ مَنْيِ عَنْهُ لِأَجْلِ كَوْنِي يُخِلُّ بِفِعْلَ الْمَأْمُورِ أَوْ يُضْعِفُ وَيَنْقُصُهُ كَمَا نَبَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّهِي عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ بِكَوْنِهِمَا يُصَدَّانِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. Ça, c'est également un point qui est très important lorsque le croyant, il réfléchit dessus et il se rend compte de ce qui est voulu par le délaissement de l'interdiction, ce qui est voulu par l'accomplissement de l'obligation. Lorsqu'on sait que ce qui est interdit, c'est ce qui va venir affaiblir l'accomplissement de l'ordre et le diminuer et va le rabaisser. Taïb. Et que cela donc, comme Allah Azzawajal, il l'a mis en évidence dans son livre. Il va, Ibn al-Qayyim, il fait référence à un verset du Coran que l'on trouve, qui est le suivant. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانِ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu du hasard, l'inimité et la haine, et vous détourner. وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. Et vous détourner d'invoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Donc on s'aperçoit que النهي ici يضعف. Il va donc diminuer, il va affaiblir l'accomplissement donc de l'ordre. Et qui ici lequel? Comme dans l'exemple qui nous a cité Ibn al-Qayyim, ou à travers le verset à lequel il a fait allusion, al-dhikr, dhikrullah, le rappel d'Allah, et bien entendu également la prière. Donc on voit que cela va carrément être une barrière pour accomplir donc la prière, et donc pour accomplir également le rappel d'Allah. Ou alors il va l'affaiblir, c'est-à-dire que la personne qui va tomber fil ma'asi, tout simplement son dhikr, il va s'affaiblir. Également, peut-être sa prière également, elle va s'affaiblir, etc. Que ce soit dans le fait de faire la prière comme il se doit, etc. Le fait qu'il est tombé donc fil ma'asi. Donc on mourre. Le fait de faire un acte obligatoire, c'est un but en soi-même. Et que le fait de délaisser l'acte qui est interdit, c'est en réalité son maqsoud, c'est-à-dire donc son but à lui, c'est tout simplement de compléter cet acte-là qui est lui obligatoire. Comme on s'en rend compte donc à travers le verset qu'il nous a cité et de façon générale. Et à partir de là, on va tout simplement comprendre, comme il nous dit Ibn al-Qayyim, فَالنَّهِ مِنْ بَابْ الْمَقْصُودِ لِغَيْرِهِ. C'est-à-dire le fait que Allah Azza wa Jalla, il a interdit les interdictions, il a interdit les actes qui sont donc prohibés à travers le Coran et la Sunna. Al-Maqsoud li-Ghayri, c'est-à-dire donc leur but, c'est pour un autre, c'est pas Al-Maqsoud li-Dhati, li-Ghayri, pour un autre que cela. Et on a vu donc à titre de complément, c'est-à-dire afin de complémenter l'acte obligatoire. Wal-Amru bil-Wajibat min Bab Al-Maqsoud li-Nafsi, comme on l'a dit, et comme il répète, c'est ici donc une règle, que l'accomplissement de l'obligation, ça rentre donc dans ce qui est du but en soi-même, d'un but en soi-même. Taïb. En réalité, le shir va encore rappeler beaucoup de choses, et on y reviendra inchallah le prochain cours, parce qu'elles sont très importantes. On va même voir qu'on va encore rentrer dans la croyance. Qu'on va même voir encore une règle qui est très importante dans ce qu'on appelle le takfir. Masalat al-takfir, où beaucoup de gens sont tombés dans cette question-là, du takfir. Donc on va voir que c'est très très important ce qu'il va nous dire Ibn al-Qayyim à partir de cette question-là. Et ça va nous permettre d'apprendre des choses qui sont plus qu'utiles dans la croyance du musulman. Et bien entendu, à travers cette question-là, de mettre en évidence l'importance de l'obligation par rapport à l'interdiction. Mais ça n'a pas pour but, bien entendu, التهاون في المعاصي, le fait tout simplement d'alléger la question pour ce qui est de المعاصي, pour ce qui est du péché. Bien au contraire. Mais faire prendre conscience à la personne qu'il sache donc faire une mizaine. Sache faire la balance entre ce qui est de l'obligation et entre ce qui est de l'interdiction. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.